l'émission d'économie en question en compagnie de quatre experts, comme chaque semaine, professeurs et chercheurs en économie, pour leur demander de commenter l'actualité de la semaine, confronter leurs analyses pour les rapprocher ou les opposer autour de deux sujets que nous avons choisis, comme chaque samedi, dans l'actualité nationale et internationale. En France, d'abord, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a appelé le gouvernement à mettre, je cite, ses actions en conformité avec ses belles paroles et a insisté sur le ras-le-bol du patronat face à la fiscalité qui continue de monter, contrairement aux promesses. Plus largement, contre une politique qui, de l'avis des patrons, petits et grands d'ailleurs, bride l'économie, je cite encore, et nous allons voir de quelle manière, avec les exemples avancés également par la CGPME ou l'Union professionnelle artisanale. Mais de son côté, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, et c'était évidemment encore cette semaine, a appelé lui les patrons à, je cite encore, prendre leurs responsabilités, ajoutant le terme de responsabilité et d'ailleurs dans le pacte du même nom. Et il a été suivi par son Premier ministre Manuel Valls, déclarant lui aussi à l'adresse des dirigeants du patronat « Un certain nombre de propositions, de provocations, de propos aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité ». Alors, guerre des mots, guerre des déclarations, tension savamment entretenue ou réelle incompréhension, ce sera notre premier sujet. Entreprise, gouvernement, le grand malentendu. Et notre deuxième thème, sans trop de surprise sans doute, ce sera la Russie. La Russie qui prévoit d'entrer en récession en 2015, qui subit de plein fouet sans doute les sanctions économiques décrétées par les Occidentaux. La chute du cours du pétrole, dont nous avons déjà longuement parlé, et qui certainement plombe également son économie. Et l'inflation et la chute du rouble, cela fait beaucoup en effet après des années de croissance sous la présidence de Vladimir Poutine, si l'on excepte tout de même la crise de 2008, mais on va y revenir, et en dépit des déclarations très rassurantes du Kremlin, l'économie russe est en situation délicate, nous semble-t-il du moins. Retour sur les derniers mois écoulés, sur l'abandon du projet de gazoduc vers l'Europe, sur les relations de la Russie avec ses partenaires nouveaux ou plus traditionnels, et nous commenterons également l'efficacité des sanctions économiques. Bien souvent, ce sont les populations les plus fragiles qui en font les frais. Quel avenir pour l'économie russe, notre deuxième thème. Et nos invités ce matin, Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université Paris 13, Olivier Pastret, professeur d'économie à Paris 8, Dominique Plion, professeur d'économie financière, c'est encore l'Université Paris 13, et Xavier Thimbault, directeur du département des analyses et prévisions à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et n'oublions pas notre troisième séquence en toute fin d'émission, celle que nous appelons nos actualités invisibles, repérées par nos invités, et qu'ils souhaitent nous signaler à notre attention, parce qu'elles leur paraissent importantes et porteuses d'avenir. C'est l'économie en question. Bienvenue à tous, et nous sommes ensemble jusqu'à midi. On commence donc par notre sujet sur la France, en rappelant donc plus de 6000 manifestants qui ont défilé à Paris, 4000 à Toulouse, ce sont les chiffres avancés par la CGPME. La seule organisation d'ailleurs a appelé les patrons à descendre dans la rue. On sait que le MEDEF a choisi de son côté un grand meeting. L'Union professionnelle artisanale de son côté a rédigé une lettre ouverte à François Hollande qui a été publiée dans la presse régionale en milieu de semaine. Et voilà, donc ça fait autant de manifestations qui étaient quand même très concordantes. Et l'on va revenir sur les principales revendications. Peut-être d'abord un mot sur cette guerre des mots. J'ai commencé par là, elle paraît peut-être anecdotique, mais on sent quand même un climat, j'allais dire moi, presque politique. Est-ce aussi votre avis? Et est-ce que chacun est dans son rôle en forçant un peu la dose dans les déclarations? Ou bien on pourrait faire autrement? Qui veut commencer, Olivier Pastret?
On pourrait faire, on devrait faire autrement. Moi, je suis assez favorable aux déclarations du Premier ministre et Macron. Que les chefs d'entreprise soient mécontents de la situation économique actuelle, qu'ils soient mécontents de la politique du gouvernement, je vois ça moins, de manière moins évidente. Mais de là à aller dans la rue et à transformer une vraie négociation sociale à mener et à transformer ça en une espèce de pugilat urbanistique, ça me paraît complètement irresponsable. Voilà. Après, encore une fois, le problème des patrons est un vrai problème en France. Et il faut arrêter de dire, et vous l'avez dit dans votre introduction, les entreprises petites ou grandes. Les entreprises petites ou grandes, c'est deux univers totalement disjoints. Les grandes entreprises françaises se portent très bien. Elles opèrent de moins en moins en France.
Mais les très grandes se portent très bien.
Les très grandes, oui.
Les très grandes, c'est déjà autre chose.
Oui, enfin, même ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, les entreprises moyennes, tout ça, ça va très bien. Ce qui va très mal, ce qui n'est pas totalement anormal en période de crise, c'est les petites entreprises et surtout les très petites entreprises.
Oui, on va effectivement revenir. On va revenir aussi sur les patrons des entreprises intermédiaires, voire un petit peu plus grandes ou moyennes, qui ne sont pas forcément d'accord avec ces discours que vous venez de dénoncer, Olivier Pastret.
Oui,
Dominique Clion, puis Xavier, c'est un premier tour de table juste sur la méthode.
Olivier Pastret, d'une certaine manière, je trouve qu'il est consternant, en effet, qu'il y ait cette guerre des mots, parce que ce dont on a besoin en ce moment en France, dans cette situation difficile, pour le chômage, pour l'investissement, etc., c'est un minimum de dialogue social et donc d'un minimum de débat positif, constructif. Or, on constate que cette guerre des mots, ces attaques, ne sont absolument pas à la hauteur d'un vrai débat. Je ne suis pas un défenseur acharné du rapport Gallois de 2012 sur la compétitivité française, mais au moins, il insistait sur un point, il disait il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de sortie de crise en France, mais d'ailleurs c'est vrai, je pense, pour les pays européens qui sont en proie aussi à des tensions fortes, mais sans avoir un dialogue social reconstruit. Et là, on voit un patronat qui décide bien d'attaquer. Et je pense qu'il le fait parce qu'il croit que les partenaires sont affaiblis. Le gouvernement est affaibli par toute une série de scandales, etc. Et aussi, il a fait des concessions probablement excessives. Et puis, deuxièmement, les syndicats, en effet, sont en ce moment affaiblis, divisés. Et donc, il croit marquer des points en faisant cela. Mais je pense que c'est une erreur, en réalité. Ça se retournera contre le dialogue social, d'une part, mais aussi contre le patronat et l'image qu'il donne dans l'opinion. Donc, je pense que c'est tout à fait déplorable.
Contre-productif, Louis Gallois, que vous venez de mentionner, qui effectivement avait fait ce rapport appelant au dialogue social, et qui est content. Il l'a fait savoir, je crois que c'était hier ou avant-hier, en appelant à négocier et vite. Il n'est pas très content, lui non plus, de la manière dont les choses se passent. Xavier Tabot continue juste sur cette...
Bon, je voudrais trouver des excuses à personne, mais je pense quand même que le fait qu'on soit dans une situation tendue, entre le gouvernement et le patronat, mais pas d'ailleurs qu'entre le gouvernement et le patronat. Le gouvernement n'a pas une popularité très élevée dans l'ensemble de la société française aujourd'hui. Ça a trait quand même aussi à la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire, on est dans une situation de crise, on n'est pas sorti de cette crise, malgré tout ce qu'on aurait pu espérer et tout ce qui a pu être annoncé, on est en train de s'y enfoncer. On a connu une deuxième phase après la première phase initiale qui a été la crise des dettes souveraines en Europe. On est en train peut-être d'entrer dans une troisième phase qui est celle de la déflation. Voilà, tout ceci met tout le monde dans un état d'angoisse tout à fait justifié dans un environnement économique extrêmement dégradé, extrêmement préoccupant, avec du chômage d'un côté, des salaires qui croissent peu, des prélèvements qui augmentent beaucoup, et puis de l'autre côté, des entreprises qui elles-mêmes, voient une situation qui se dégrade, un bilan qui se dégrade, elles n'arrivent pas à diminuer leur dette comme elles l'auraient souhaité, des petites entreprises qui se retrouvent étranglées. Des difficultés de compétitivité parce qu'un certain nombre de partenaires de la France entrent en déflation et donc deviennent des compétiteurs extrêmement agressifs. Des prélèvements obligatoires qui ont augmenté. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pas, derrière lequel il ne faut pas se cacher. Alors, je viens de poster un petit graphique qui peut vous expliquer le problème aujourd'hui. En fait, dans la crise et dans le mouvement de réduction des déficits, les prélèvements obligatoires ont été augmentés, à la fois sur les entreprises et sur les ménages. Ils ont été augmentés plus sur les ménages que sur les entreprises.
Ce qui pose la question du fameux CICE, à quoi a-t-il servi ?
Alors, justement, à propos du CICE, à quoi a-t-il servi ?
C'est une manière d'excuser les entreprises, entre guillemets.
En fait, les prélèvements obligatoires ont augmenté avant la mise en place du CICE. Et donc, correspondent effectivement...
Crédit, impôt, compétitivité, emploi, je le rappelle.
Le ressenti des entreprises, qui est qu'il y a une augmentation de notre fiscalité, est tout à fait juste. Alors, comparé à celle des ménages, bah oui, elle est moins forte que celle des autres, des autres agents économiques, donc très bien. Mais surtout, le gouvernement a annoncé un certain nombre de baisses de prélèvements obligatoires qui vont s'étaler jusqu'à 2017, qui sont assez significatives, c'est les fameux 41 milliards. Mais en fait, pour le moment, en cette fin d'année 2014, la baisse des prélèvements effectivement perçue par les entreprises est relativement faible. Et ça, ça crée ce mouvement de tension très fort. C'est-à-dire, le gouvernement dit, nous, on a mis 41 milliards sur la table, alors qu'on n'a pas baissé les prélèvements des ménages. Donc on a fait un choix qui est très clair, et qui est très coûteux en termes de popularité, et qui est très coûteux pour un gouvernement de gauche. Mais de l'autre côté, en fait, les entreprises disent, oui, mais nous, on n'a pas encore vu le résultat de cela, et on a une augmentation de nos prélèvements. Et en fait, ce que vous nous proposez, c'est juste un retour de nos prélèvements à ce qu'ils étaient avant la crise. D'où ce malentendu, ce mécontentement, qui traduit aussi l'impasse et la difficulté dans laquelle se trouve le gouvernement. Alors que dans cette situation-là, le gouvernement a été maladroit, qu'il ait manqué les occasions, qu'il n'ait pas construit le dialogue constructif, qu'il ait mal anticipé cette tension pour essayer de la désamorcer, ça c'est évident, et aujourd'hui il en paye très cher le résultat, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation qui est extrêmement tendue.
Et anxiogène, il faut
le dire. Et anxiogène, ouais. Et que oui, les gens sont dans la rue.
Tout à fait.
Anxiogène pour les chômeurs aussi, il faut rappeler.
Mais, bien sûr, bien sûr.
Il y a quand même près de 60 000 disparitions d'entreprises chaque année en ce moment. Hein, donc pour les patrons c'est dur, mais aussi pour les chômeurs.
Benjamin Coriat, c'est vrai, restons un instant sur ce crédit impôt compétitif d'emploi, les fameux 41 milliards. Effectivement, le gouvernement dit, mais on vous a donné même encore plus que ce qu'on avait initialement prévu. Et c'est aussi votre échec, si nous en sommes là.
Oui, je vais y venir. Mais juste avant, je voudrais dire deux, trois choses en termes généraux. Premièrement, je vais dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à présent. Je pense qu'il y a un certain... certaine irresponsabilité quand même des patrons, en particulier de Gattaz, hein, qui a poussé les feux, à transformer les difficultés et le besoin de négociation sur lesquels on est tous d'accord en ces manifestations de rue. Donc il y a vraiment un côté extrêmement idéologique de la manière dont la bataille est menée, y compris de manière très provocatrice. Hein. Je pense à Gattaz expliquant qu'il faut sortir de l'OIT pour pouvoir, du BIT,
Organisation internationale du travail,
pour pouvoir licencier sans justification. Donc vraiment, on pousse les feux extrêmement loin. Bon, d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, donc on vient au CICE et tout ça, il faut aussi considérer, ce qui a commencé à être dit par Xavier, quelques autres, que ça correspond aussi, on va le dire sous cette forme, à un échec ou en tout cas au fait que la politique économique suivie n'a pas donné pour le moment du tout les résultats espérés. Bon, et donc, comment dire, de l'autre côté... il faut entendre, au-delà des clameurs, si je peux dire, et des clameurs plus ou moins factices, des cris d'orfraie qui sont poussés ici ou là, le fait que la politique est en train d'échouer. Hein, c'est-à-dire que le transfert de ressources unilatérales aux entreprises considérées comme moyen de sortir de la crise, qu'on a appelé pompeusement la politique de l'offre, alors qu'il y a une politique de l'offre tout à fait autre qui peut être faite, qui est de l'investissement public, est en train d'échouer. Voilà, donc c'est pour ça que à la fois du côté du MEDEF, on pousse les feux de manière tout à fait déséquilibrée, et à la fois, il y a des vrais problèmes sur le fait que la politique qui est menée ne prend pas. Et rencontre toutes sortes de difficultés.
On pousse les feux et on est parfois un peu débordé, hein, parce que l'affaire des sifflets lors de ce fameux meeting...
Ouais. Mais ça avait été envisagé.
C'était pas très malin, mais c'était pas souhaité par Gattaz.
Ça avait été envisagé par Gattaz.
Il y avait renoncé.
Puis après, évidemment...
C'était anecdotique, mais ça donne quand même une image.
Mais attendez, on est sur quelle planète? La fascination...
Les cadenas et le reste.
Ouais. La fascination qu'exerce Pierre Gattaz sur Benjamin Coriat est merveilleuse.
Elle est vraiment pas très grande parce que j'ai déjà vu son père à l'œuvre et je sais ce que donne tout ça.
Non, son père était plutôt bon. Hein.
Il a été extrêmement bon pour obtenir la fin de l'autorisation administrative de licencier en échange de promesses d'emploi qu'il n'a pas tenues. Son fils est exactement dans la même ligne.
Non, pas du tout.
Olivier Pastret.
Non, pas du tout. Est-ce que quand le représentant en France de la secte Moon fait une déclaration, vous l'écoutez attentivement?
Oui. Mais il n'a pas exactement la même influence que Gattaz.
La réponse est non. Mais c'est nous qui lui donnons de l'influence. Parce que Gattaz, il n'est que le représentant d'un syndicat patronal, donc avec un prisme de défense des intérêts du patronat en général, et deux, il ne défend pas que l'ensemble du patronat. C'est quand même la voix des grandes entreprises. Et donc, pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'attention à quelqu'un qui ne représente qu'en gros que lui-même et qui gesticule parce qu'il ne représente
pas que lui-même
Non, il ne représente pas que lui-même, Olivier. On ne peut pas dire ça.
Est-ce que je peux parler des sujets de mécontentement?
Est-ce que je peux finir? Si on regarde la situation objective, et ça, Dominique reprendra certains des points où on en développera d'autres, c'est laquelle? Elle est double. La structure des entreprises en France est déséquilibrée. On a de quelques très belles entreprises mondialement reconnues, et puis un tissu de toutes petites entreprises qui naissent, qui meurent. Je ne dis pas que c'est la vie est rose, mais en tout cas, on a une vitalité industrielle. Et puis au milieu, il y a ce qu'on appelle les entreprises moyennes, et là, il y a une différence entre la France et nos principaux concurrents, notamment l'Allemagne. Deuxième élément de caractérisation de la situation de l'industrie française aujourd'hui, c'est que la rentabilité des entreprises est très faible. Ce qui explique en partie, pas seulement, ce qui explique en partie l'incapacité des entreprises à investir. Mais c'est sur ces deux points-là qu'il faut se concentrer. Et les patrons de PME, qui sont les vrais patrons qui créent de l'emploi, sont probablement exaspérés par les aspects fiscaux, comme tous les citoyens, mais plus désireux que ça marche que le représentant dont on...
Pour mémoire, juste petit rappel, qui suit ce que vous venez de dire, les trois organisations que j'ai citées, MEDEF, CGPME, UPA, donc réservées aux artisans, CGPME qui bien sûr défend les petites et moyennes entreprises, sont les représentants, les seuls habilités à négocier avec les syndicats, les fameuses négociations qui tardent tant à venir d'ailleurs, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu très peu d'accords signés jusqu'à présent. Donc elles ne représentent en fait que 70% de la masse salariale, ce qu'ont fait savoir les autres, notamment toutes les entreprises liées au secteur associatif ou d'autres, les entreprises, les indépendants, etc. Donc il faut bien avoir ça en tête aussi. Toutes les organisations qui ne sont pas multiprofessionnelles ne sont pas défendues, enfin plutôt...
Oui,
c'est un point qu'il faut avoir en tête.
Revenons
Olivier,
sur les trois...
Olivier n'a pas l'air d'accord. Est-ce que
ce que vous dites est vrai au niveau des négociations nationales, au niveau des négociations par branche, les syndicats qui peuvent être importants dans tel ou tel secteur ou dans telle ou telle entreprise comme SNCF, j'ai en tête Sud, mais ça pourrait être d'autres, sont représentés au niveau des négociations.
Voilà. La FNSEA, notamment les exploitants agricoles l'économie sociale.
Dans le pacte de responsabilité et les négociations auxquelles ça doit donner lieu, c'est vrai que ce qui est acquis, c'est trois branches, c'est-à-dire un nombre dérisoire d'accords en contrepartie.
Je voudrais reprendre là-dessus
le problème.
Oui, reprendre là-dessus, c'est quand...
mesure,
non, mais pour prolonger ce que disait Benjamin Corrie à l'instant, c'est quand on dit mettons la parole, les actes en conformité avec les paroles, on voit que le MEDEF ne pousse pas vraiment à ces accords de branche, il n'y en a que trois. Donc, où est la conformité des paroles aux actes? Je pense que, des deux côtés, il faudrait balayer devant sa propre maison. Non, je voudrais énumérer les trois sujets qui sont un peu les pommes de discorde mises en avant, parce que c'est intéressant, nos auditeurs peut-être les connaissent ou pas forcément. Il y a d'abord la question du compte de pénibilité qui a été mis en place dans le cadre de la réforme des retraites. C'est-à-dire de favoriser, donner des points supplémentaires de retraite aux salariés qui ont les professions les plus pénibles. Et il y en a. Et c'est important. C'est un progrès social. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est le résultat du dialogue social. Donc ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que ce qui a été négocié et signé est remis en cause. Donc là, il y a aussi un problème par rapport au dialogue social. Si on veut le dialogue social et si on aboutit à des compromis, une fois que ces compromis sont signés et qu'ils donnent lieu à une loi, les remettre en cause, c'est quelque chose d'assez grave. Et je pense que là, il y a un problème en France, c'est ce comportement de certains acteurs et notamment des patrons qui veulent remettre en cause des choses signées auxquelles ils ont adhéré antérieurement.
Des patrons qui, sur ce point, je le dis, disent c'est extrêmement compliqué
à
faire.
Oui, oui, oui.
C'est un clic.
Non, mais une incidente pour dire que je redonne la parole à Dominique tout de suite, pour dire que ça, c'est la contrepartie positive, le compte pénibilité.
Une retraite d'engranger. Qui, par ailleurs, est extrêmement contestable. Une réforme qui est contestable.
Qui a fait passer le fait de l'allongement de la durée de l'art. Donc, on ne peut pas à la fois engranger ce qui est la dimension positive, entre guillemets, pour les patrons, et ne pas s'exécuter sur la partie de concession. On ne peut pas jouer au dialogue social de cette manière-là.
Alors, les deux autres points, c'est...
Il entre en vigueur le 1er janvier, voilà. Je rappelle.
Les deux autres points, c'est l'interdiction de l'embauche en temps partiel à moins de 24 heures par semaine, qui, évidemment, pose problème à certains patrons. Et évidemment, quand on regarde le modèle anglais qui est souvent cité, on peut prendre des gens sur des contrats à zéro heure, une certaine semaine et un peu plus la semaine d'après. Je pense que c'est un verrou qui est quand même relativement utile et je ne vois pas pourquoi on le remet en cause aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, alors c'est ce qu'on appelle quelquefois la loi Hamon, c'est quand il était ministre des Affaires de l'économie sociale et solidaire.
Le projet de cession.
Voilà, projet de cession d'entreprise avec obligation de prévenir les salariés.
D'en informer en amont les salariés.
Et ça, c'est important. Et j'élargirais. Un des problèmes qu'a la France par rapport à nos voisins, par exemple allemands, c'est quand il y a des cessions d'entreprise ou parfois des plans sociaux, tout simplement, il y a un dialogue en amont qui existe dans les pays voisins, et notamment en Allemagne ou les pays scandinaves, qui n'existe pas en France. C'est-à-dire que les salariés sont mis du jour au lendemain devant le fait accompli. Et ça, ce genre de régulation me paraît extrêmement utile. Ça fonctionne dans les pays voisins. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en France? Et donc, on a un patronat qui, de ce point de vue-là, je m'excuse de le dire, est un peu rétrograde, quoi. Il ne veut pas ces avancées qui, pourtant, sont pratiquées ailleurs, dans des pays qui sont, par ailleurs... montrer un exemple souvent.
Donc, oui. À quoi on peut rétorquer quand même, Dominique Pillon, parce qu'ils le disent beaucoup, que c'est un empilement de mise en place de textes législatifs qui ne cessent de s'ajouter les uns aux autres et qui, qui envoient quand même des messages de complexité. Peut-être qu'on pourrait simplifier ces méthodes, je ne sais pas. Enfin, on a entendu votre avis, Xavier Thimbault, Olivier
Pastret. Je trouve Dominique un peu optimiste, parce qu'il disait quelles sont les pommes de discorde. Les pommes de discorde, il y a celles qui sont liées aux réglementations en cours de mise en œuvre, et puis il y a toutes les autres. Je vais prendre un exemple parmi d'autres. Les seuils, aujourd'hui, le seuil de 50 salariés enclenche toute une série de contraintes sur les entreprises. Est-ce qu'il faut remettre ou non en cause c'est un vrai sujet. Pardon. Il faut bien voir deux choses. Un, c'est que le dialogue social, c'est quand même une innovation de ces deux gouvernements, cette présidence.
C'était sentiment. Dans les promesses de François Hollande.
Il se trouve qu'avant, tout se décidait, entre guillemets, rue de Grenelle. Aujourd'hui, le gouvernement essaie de promouvoir le dialogue social. Le promouvoir, ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Deuxième élément qui me paraît extrêmement important, la représentativité des syndicats, parce que c'est de ça dont on parle. Il faut juste donner un chiffre aux auditeurs pour ceux qui ne le connaissent pas. Le taux de syndicalisation en France est de 10%. Et dans le secteur privé, est en gros 3%. Ce qui pose un vrai problème du côté des syndicats ouvriers, mais aussi du côté des syndicats patronaux. Est-ce que les syndicats sont représentatifs? Et s'ils ne le sont pas, comment faut-il faire pour qu'ils le deviennent? C'est-à-dire qu'à la limite, moi je suis pour les positions de Ségolène Royal il y a 5 ou 6 ans, qui est de financer les syndicats.
Il faut rappeler
très brièvement,
des syndicats un peu en crise également,
très brièvement, on est un peu dans une histoire de chien qui se mord la queue ou quelque chose de ce genre, parce que c'est vrai que la représentativité des syndicats est mise en question compte tenu des chiffres que donnait Olivier, qui sont absolument indiscutables. Mais c'est aussi parce que le nombre d'accords significatifs signés est faible. Ça veut dire que si on arrivait à signer des accords significatifs, probablement on aurait moins ce problème de discussion sur la représentativité des syndicats. Donc il faut bien commencer par un côté, et le bon côté c'est sûrement de signer des accords. Ça c'est un premier point.
Est-ce que vous me permettez, pardon Benjamin, deux accords de branche ont été signés pour le moment, a rappelé le ministre de l'économie Emmanuel Macron.
Trois sur 52.
Ah non, j'avais entendu cette semaine qui parlait.
Sur 52.
Voilà, sur 52. Et François Rebsamen, le ministre du Travail, l'avait souligné aussi. La moitié des 50 principales branches professionnelles n'ont pas encore planifié les négociations.
Le point sur lequel je voulais insister en revenant sur ce que disait Olivier, c'est la discussion sur les seuils sociaux, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des représentants du personnel, des comités hygiène et sécurité, etc., pour les petits nombres, hein, à partir de 11, 50, etc. C'est vrai qu'on peut concevoir que ça soit un problème, hein, bien. Mais c'est vrai aussi qu'il faut le dire, les syndicats de leur côté ont fait, je pense, un pas en avant et une proposition tout à fait remarquable en disant, ok, pas de représentation directe nécessairement dans l'entreprise, mais sur une base locale et territoriale pour permettre quand même aux salariés des petites entreprises d'être représentés, d'avoir une voix. Donc je veux dire, en l'occurrence, c'est pas forcément toujours le cas, hein. Donc je suis pas du tout en train de faire la défense systématique des positions prises par les syndicats. Mais en l'occurrence, ils avaient fait un grand pas en avant. Et le patronat n'a pas voulu en entendre parler. Donc je veux dire, il y a vraiment un vrai problème. Il y a vraiment un vrai problème.
Xavier Thimbault.
Je voudrais reprendre un peu cette idée-là de dialogue social. Je pense que c'est très bien de vouloir le promouvoir, mais il ne faut pas être naïf. Dans un pays qui n'a pas la culture du dialogue social, ça a de fortes chances de ne pas fonctionner. C'est-à-dire que les pays où le dialogue social fonctionne, ce n'est pas des pays où un jour on dit « tiens, mettons-nous autour d'une table et trouvons une solution à notre problème ». C'est une alimentation continue, une discussion continue, qui finit par dégager des consensus, de la culturation réciproque sur les problèmes, pour aboutir à des réformes en continu aussi. Parce qu'il faut éviter les grands soirs où on met tout à plat et où à la fin rien ne bouge, où chacun sort en particulier frustré. Je voudrais revenir par exemple sur cette histoire de compte pénibilité. Benjamin Croya nous dit, oui, c'était la contrepartie à l'allongement de la durée de cotisation et donc du retard, enfin, du recul de l'âge de départ à la retraite. C'est vrai, mais le recul du départ de l'âge à la retraite, il n'est pas à l'avantage des entreprises. Il est pour l'équilibre des régimes de retraite. Il est éventuellement pour éviter une augmentation des taux de cotisation ou une baisse des prestations. Mais du point de vue des entreprises, le recul du départ à l'âge de la retraite, c'est peut-être intéressant du point de vue macroéconomique et donc ça a des conséquences indirectes sur l'entreprise.
C'est une de leurs demandes constantes quand
c'est
même.
C'est une de leurs demandes constantes, mais la petite entreprise qui est au coin de la rue, le recul de l'âge de la retraite, ça ne va rien changer à son bilan d'exploitation.
Et si elle a une baisse d'activité,
contre,
c'est comme ça.
Par contre, la prise en compte de la pénibilité, ça va changer quelque chose dans son bilan. Et c'est ça le problème, c'est qu'elle, elle se retrouve dans un deal qui a été conclu, qui a peut-être une signification au niveau global, mais qui, de son point de vue, est un deal très déséquilibré.
Vous voulez dire, Xavier Thimbault, que dans une croissance atone, on ne peut pas proposer ce type de mesure?
Non, je ne dis pas ça. Je dis que le compte de pénibilité, c'est-à-dire que la négociation, le dialogue social qui a été fait à la France, a quand même été toujours marqué par cette culture centralisatrice, où on dit, on a un problème de retraite, on va, les entreprises ne veulent pas payer, les salariés ne veulent pas partir plus tard, on va faire un truc, on va échanger la pénibilité contre le départ plus tard. Mais ça, c'est une décision qui est presque centralisée, enfin, qui est faite à haut niveau.
Attendez,
et après, dans les entreprises, on dit, oui, mais bon, nous, le recul de l'âge de départ à la retraite, ça ne change rien. Voire même, en fait, ça va nous embêter parce qu'il y a des salariés dont on aurait aimé qui quittent l'entreprise et en fait, ils ne vont pas la quitter. Donc, ça nous pose ce problème de la prolongation de l'activité dans l'entreprise, l'adaptation des postes de travail, etc. Et en plus, on va nous imposer la pénibilité qui représente des coûts supplémentaires, des coûts administratifs, etc.
Adaptation, et donc, formation, ce, je ne donne pas les détails.
Dans ce deal,
on évite l'augmentation des taux de cotisation pour équilibrer les régimes.
Mais donc, oui, mais les taux de cotisation,
ils ne sont pas de cette dimension-là.
Les taux de cotisation,
ils ne sont pas. Sinon, on ne comprend pas pourquoi la loi a été passée.
Non, mais ok, mais les taux de cotisation, ils ne sont pas dus par les entreprises, ils sont dus par les salariés.
Non, des deux côtés.
Mais non.
Mais si.
Non, mais ça c'est une fiction, je veux dire. Mais non, ne serait-ce que fiscalement, on compte les cotisations patronales comme des salaires différés. Donc c'est bien des salaires.
Bien sûr.
Et ça intervient bien dans le coût du travail pour les entreprises.
Oui, bien sûr.
C'est pas une part du bénéfice qui est consacrée à payer la retraite des salariés. Je pense
bien
que
sûr.
Cette fiction-là, il faut arrêter de se noyer dedans.
Oui, d'autant que, rappelle notre économiste que nous connaissons bien, il vient souvent ici, Patrick Artus, depuis 15 ans, les salaires augmentent en France plus vite que la productivité. Qu'on le veuille ou non, ça reste encore une réalité.
Voilà.
Que les entreprises mettent en avant, et elles n'ont pas tort de le faire tout de même.
Est-ce qu'on peut pas, et là on est politiquement pas correct, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître que le gouvernement est assez courageux? C'est pas l'image que donne le président de la République ou que le président de la République laisse percevoir. Mais moi, c'est mon sens, c'est la réalité. Le problème, il est le problème de la poule et l'œuf, ce que vous disiez. C'est par quoi on commence? Est-ce qu'on prend le pari de promouvoir le dialogue social, sachant que l'effet va pas être simple, qu'il faut probablement 10 ou 20 ans pour que les gens s'habituent à avoir des responsabilités, à discuter et donc à être plus responsables? Je trouve que c'est assez courageux de promouvoir le dialogue social dans une période où c'est particulièrement difficile. Par ailleurs, deuxième volet, on l'a évoqué, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête, il y a un thème qui est essentiel, qui est la complexité du code du travail, qui ne s'applique pas de la même manière dans une grande entreprise et dans une PME. Je pense que c'est vraiment deux univers disjoints. Et c'est vrai que le compte pénibilité, qui est un progrès incontestable, Dominique a tout à fait raison de le souligner, c'est sur le plan de la mise en œuvre très complexe. Et il y a ce problème-là...
Que nie la ministre Marisol Touraine, hein, elle dit c'est un clic une fois par an, mais enfin après à vérifier.
Oui, non mais ça, attendez, Marisol Touraine, elle clique plus facilement que le patron de PME. Attends, il faut, encore une fois, il y a en France 2,5 millions d'entreprises. Sur les 2 millions d'entreprises, il y en a 2,499,743 qui sont des petites entreprises, pour lesquelles un clic de plus, c'est quand même très compliqué.
Vrai, non, mais tout
donc
à fait.
Il y a ce vrai problème. Je trouve que le gouvernement aurait intérêt à promouvoir ce débat. Il a commencé sur la simplification, parce que c'est un vrai problème.
Non, mais la seule chose quand
Benjamin
même...
Benjamin Coriat, on va terminer sur ce sujet.
Je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sous une autre forme, c'est que la difficulté du dialogue social, elle existe bien, surtout dans la situation de rapport de force qu'on connaît, mais ce n'est pas séparable du contenu même de la politique. Et donc, ce qui est choquant et ce qui nous choque tous et ce qui fait qu'il y a un problème, c'est que, alors qu'on a quand même une politique de transfert unilatéral au bénéfice des entreprises, même si Xavier Timbaud a raison de dire que les effets ne sont pas encore ce attendu, mais c'est quand même ça qui est vraiment installé pour les deux années qui viennent, on a cette levée de bouclier du patronat. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est ça qui est un peu compliqué. Ça veut dire que on aurait une politique visant mettre les entreprises au pas, on comprendrait, mais c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. On a parlé de la loi Macron il y a 15 jours. Vraiment, on peut pas dire que il s'agit de les maltraiter.
Non, je voudrais peut-être rajouter un point qui est peut-être la dimension psychologique et la confiance. C'est-à-dire que ce que espérait le gouvernement, c'est que son plan, même s'il est différé dans le temps, enfin s'il s'applique de manière différée, changerait les anticipations des entrepreneurs et leur permettrait commencer à réinvestir. Et ça, évidemment, c'est complètement faux, parce que dans le contexte de déprime de l'économie actuelle, et qui n'est pas qu'en France, hein, nos partenaires et voisins sont dans la même situation, et parfois pire, eh bien, c'est un calcul complètement faux. Ouais. Donc, il aurait fallu être, en fait, beaucoup plus volontariste et ne pas espérer que, si, en annonçant des mesures dans le temps, ça allait changer les choses. Et donc, là, on a un problème de calendrier. C'est qu'à court terme, sachant que ces mesures ne seront applicables que dans le temps, eh bien, on est en stagnation, voire même en début de déflation. Et ça, c'est une période extrêmement difficile.
Il me semble, je retiens de tout ce que vous dites, que ce grand malentendu qui était notre titre entre les entreprises et le gouvernement ne devrait pas se dissiper avant un minimum de redressement de la situation économique.
Et si elle ne se redresse pas, alors
et si elle se redresse
on
pas,
se demande bien rapidement. Ce qui va se passer.
On est navré d'être aussi pessimiste.
Vous écoutez L'économie en question sur France Culture avec Dominique Rousset.
Et avec ce matin, Olivier Pastrette, Dominique Plion, Xavier Timbaud et Benjamin Coriat. Et nous allons parler de la Russie. La Russie, donc, qui, vous venez de parler de récession, semble-t-il, Dominique Plion, qui devrait entrer en récession en 2015, puisque beaucoup de facteurs se conjuguent pour provoquer pas mal de difficultés dans ce pays. Lequel retenez-vous d'ailleurs? Les sanctions économiques, c'est un effet d'enchaînement, mais la chute des cours du pétrole, l'inflation dans laquelle elle est déjà, la chute du rouble dont Vladimir Poutine vient de dire très récemment qu'elle est causée par les spéculations, qu'il voudrait mettre un terme à ces spéculations, on ne voit pas très bien comment d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir en premier de la situation de l'économie russe? Tout le monde n'est pas forcément pessimiste. Moi, je l'ai présenté comme un sombre avenir, mais
donc, moi, votre point de vue, Benjamin Coriat. J'aurais tendance à dire que dans le contexte des sanctions qui ont en partie précédé, la chute des revenus pétroliers est sans doute l'élément accélérateur de tout le reste. Parce que l'effondrement du rouble, par exemple, auquel on a assisté, il a l'air de s'être confirmé avec la chute des prix du pétrole. Et ça s'explique
par... de la décision très récente de l'OPEP, c'était la semaine dernière, on en avait parlé aussi, de maintenir son objectif de production.
Mais ça, c'est un autre sujet dont on va parler, qui est la guerre
entre le
pétrole et le schiste, si j'ose dire. Mais pour rester sur la Russie, en tout cas pour le pour le moment. C'est vrai que c'est 70% des recettes d'exportation et 50% du budget de la Russie.
Donc effet
on comprend bien que l'effet est considérable. Ceci dit, il ne faut vraiment pas s'en réjouir. Il ne faut vraiment pas s'en réjouir, quels que soient les différends qui opposent l'Ouest à la Russie. Parce que non seulement l'effet sur l'économie mondiale sera évidemment pas très bon, bien, mais on risque d'assister à une situation dans laquelle la Russie va se tourner encore plus, si je peux dire, vers son axe oriental, hein, vers le Japon et la Chine. Et je pense que ça fait partie des hypothèses.
D'Olivier Pastret, il va nous
dire pourquoi. Partie des hypothèses qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, parce que je pense que...
Et alors, question naïve, pourquoi ce serait si mauvais pour nous?
Ça serait si mauvais pour nous parce que je pense que la Russie est à terme une grande économie, non seulement productrice de pétrole, mais d'un très grand marché intérieur, et que l'Union européenne soit capable, à ses frontières, d'entretenir de bonnes relations économiques avec ses grands marchés, est, je crois, important.
Oui. Olivier Pastret, pourquoi
je suis en désaccord avec ce que dit Benjamin, mais en désaccord partiel. Un, c'est pas une grande économie. J'aime Poutine. J'aime Poutine parce qu'il est arrivé en quelques années.
Ça oui, Olivier.
J'aime pas Gattaz, j'aime Poutine. Enfin, il faut quand même avoir faire des choix dans la vie. Poutine est arrivé à faire d'un pays qui est un pays, contrairement à ce que dit Benjamin, encore aujourd'hui, ça changera, mais encore aujourd'hui, un pays de taille moyenne, il n'y a pas très longtemps, oui. c'était le PIB de la Belgique. Un pays qui est absolument incontournable. Alors, est-ce qu'il bascule vers l'Orient? Je ne disconviens pas que c'est une des pistes, mais on n'en est pas encore là aujourd'hui.
La Russie
est aussi dépendante de l'Europe que l'Europe est dépendante de la Russie. Pour répondre à votre question sur est-ce que c'est plus important les sanctions ou le prix du pétrole, moi, les sanctions, j'y crois pas beaucoup parce qu'il y a une telle interdépendance que s'il y a des sanctions, il y aura forcément des rétorsions et ça pénalisera les entrepreneurs français ou allemands ou anglais qui sont implantés en Russie. Donc on ne peut pas jouer trop à ça.
Mais les sanctions touchent quand même les fortunes les plus importantes, les entreprises les mieux implantées, font fuir les capitaux. Je ne sais pas, c'est tout ce que j'ai pu
obtenir
comme information.
Crédit bancaire.
Oui, ça finit par peser lourd.
On mesure ça, je ne vois plus qui est-ce qui a fait cette mesure, à une perte de 0,4% de PIB. Ce n'est évidemment pas rien. Mais alors que le pétrole, au moins dans les deux, le pétrole est plus important, le pétrole, ça oblige les Russes à devenir intelligents. Parce qu'à 110 dollars le baril, ils sont un pays rentier, comme l'est l'Algérie, il suffit de faire n'importe quoi pour que ça marche.
Mais c'est coulé, le
pétrole. À 80, ils vont être obligés de faire des choix. Et de ce point de vue-là, ça a un effet beaucoup plus important et à mon avis beaucoup plus positif que les sanctions.
Oui. Olivier Pastret, qui aime Poutine, Dominique Pliant.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les sanctions ne sont pas sans effet. Et je pense que, notamment, vous l'avez dit au début de l'émission, Dominique, les sanctions, on peut être critique, au moins pour une raison, c'est que ça frappe souvent les populations les plus fragiles. Parce qu'il y a les plus riches qui sont frappés.
On commence à l'observer sur le niveau de vie des Russes.
On pense que ça a des effets sur la population au niveau de l'alimentation, notamment. Et donc, ça, c'est du point de vue européen, on pourrait se poser des questions sur le maintien de ces sanctions. Mais je pense que ce n'est pas, en effet, comme mes deux qui se sont exprimés, mes collègues qui se sont exprimés jusqu'ici, ce n'est pas le point principal. Le point principal, c'est en effet le pétrole. Et je pense que la Russie est victime de ce qu'on appelle souvent la malédiction des matières premières. C'est-à-dire que quand ça va bien, il y a quelques années, le pétrole était à 110 dollars le baril, l'économie était
ou
180, dans le plus grand bonheur et tout allait bien. Et on se disait l'économie russe va devenir une économie extraordinairement puissante. Et puis là, on a une chute durable des prix du pétrole, et là, ça va très mal. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a d'autres pays dans le monde qui sont dans cette situation de malédiction des matières premières, qui subissent de plein fouet les cycles des matières premières, pas uniquement du pétrole d'ailleurs, des matières premières alimentaires, etc., quand il y a une récession mondiale ou un ralentissement de l'économie mondiale. On peut citer, par exemple, en Amérique latine, le Venezuela, qui se trouve dans cette situation, et même le Brésil et l'Argentine, ces pays sont des pays qui exportent beaucoup de matières premières, ils sont à croissance zéro en ce moment. Venezuela, c'est même moins. Et puis en Afrique, on a aussi des pays qui sont en difficulté. On peut par exemple parler du Nigeria, donc qui vont très mal, qui mordent la poussière, parce que précisément, ils sont victimes de ces fluctuations énormes des matières premières. Et le problème de ces pays-là, c'est qu'ils ne... Et on peut refaire ce reproche à la Russie, c'est qu'ils n'ont pas une politique industrielle, une politique économique qui fait qu'il se dote d'un secteur autre que le secteur des matières premières, solide, non sensible, au moins sensible aux fluctuations. Et du coup, c'est des pays extrêmement vulnérables. Et pour revenir sur Poutine, sans porter de jugement de valeur, le problème, c'est que pour lui, c'est que son poids politique, à l'intérieur comme à l'extérieur, risque d'être sérieusement affaibli. Et je reprendrai la citation de Clinton en 92. Vous savez, il disait « It's the economy stupid ». Quand il avait battu d'ailleurs Bush père aux élections présidentielles. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est l'économie finalement. Une puissance politique sans avoir une économie stable et forte, il y a un problème. Et donc, je pense que Poutine, de ce point de vue-là, j'imagine qu'il en est conscient. Olivier a l'air de penser que c'est quelqu'un qui est très clairvoyant. Je ne suis pas sûr, dans ses actes récents, qu'il est vraiment conscient de cette nécessité de redonner cette stabilité à l'économie russe, qui est aujourd'hui, en effet, très mal en point.
Vous faites bien de parler de la malédiction des matières premières, et en rappelant notamment ces ravages en Afrique. Juste, j'aimerais rester encore un instant, si vous le voulez bien, sur les sanctions économiques pour expliquer ce que ça veut dire. En réalité, ça touche vraiment plutôt le cœur financier. Ce sont les banques. Ce qu'il faut expliquer, c'est que ce sont les banques et les grandes entreprises qui n'ont plus accès aux capitaux des marchés mondiaux. Moi, il me semble que ça n'est pas rien. Vous avez l'air de le mettre en deuxième position. Mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, Xavier Timbaud, qu'on n'a pas entendu ?
Oui, c'est pas rien. Ça a un impact, effectivement, sur l'investissement.
Et les oligarques s'en plaignent fortement.
Ça a un impact sur l'investissement en Russie. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça a un impact également sur la capacité de la Russie à produire du pétrole. La Russie a de grandes perspectives de production de pétrole dans un endroit où qui hérissent les écologistes, et à juste titre, c'est l'Antarctique, avec des besoins d'investissement qui sont considérables, qui sont estimés à plus de 700 milliards de dollars, dans un contexte où tout le monde hésite à financer, voire il est interdit de financer les entreprises ou les opérations pétrolières en Russie. Ça a un impact à la fois direct sur l'économie immédiate, parce qu'il n'y a pas d'investissement, et ça aura un impact dans les années qui viennent, parce que pour développer ses capacités de production de pétrole, c'est problématique. Et puis, donc il y a quand même un lien entre les sanctions et le pétrole, un lien à court terme, et il y aura un lien à long terme. On peut même, si on est un petit peu paranoïaque, s'interroger sur la raison pour laquelle les cours du pétrole baissent. Alors, il y a un effet demande mondiale qui est indéniable, mais les décisions de l'Arabie Saoudite dans ce contexte de continuer à produire, et les États-Unis qui eux-mêmes aussi ont plutôt tendance à accélérer la production de pétrole ou de concurrents directs au pétrole.
Alors, allant vers l'autonomie, on va rappeler.
Oui, on peut se demander si c'est pas, autre volet des sanctions d'une certaine façon. C'est-à-dire que on cherche à jouer sur le pétrole pour étrangler à la source l'économie soviétique. Voilà, l'économie russe.
Deux choses.
Alors attendez, je voudrais quand même juste vous donner quelques éléments là-dessus, parce que c'est un problème assez majeur. La Russie produit 10 millions de barils par jour, un peu plus de 10 millions de barils par jour. 25 dollars en moins sur le prix du pétrole, ça représente pour la Russie à peu près 7,5 milliards de dollars par mois. Si ça dure 3 mois, ça représente 1 point de PIB de la Russie. Si ça dure un an, c'est 3 points de PIB de la Russie qui disparaissent directement dans son budget. Alors, c'est un chiffre élevé, très élevé. En même temps, la Russie n'a pas beaucoup de dettes publiques. Elle a
dette privée très importante.
Elle a une dette privée très importante, mais elle n'a pas beaucoup de dettes publiques. Ouais. Elle a encore des réserves de change. Donc, elle peut faire face pendant plusieurs mois à un prix du pétrole bas. Mais si ce prix du pétrole se prolonge, à ce moment-là, les conséquences assez terribles vont se produire. Et puis surtout, je pense que les dirigeants russes vont commencer à paniquer, c'est-à-dire à chercher des échappatoires à cette situation économique sur le plan géostratégique, en disant comment faire pour... Et puis, un dernier point...
On touche à la situation politique qui n'est pas notre sujet, mais tout de même.
On vit dans un monde un peu fou. Le marché du pétrole représente aujourd'hui, globalement sur la planète, plus de 2000 milliards annuels de rentes. Et derrière ces rentes, il y a non seulement la malédiction des matières premières, mais il y a aussi la corruption, les inégalités, les oligarchies, le terrorisme international, puisque
et
ça
la,
aussi
et la masse de capitaux qui circulent.
Et la Russie est peut-être pas le pire exemple dans le monde de cette situation-là, mais c'est vrai que presque 150 millions d'habitants dans une économie corrompue, dans laquelle cette rente a un effet très pervers. ça doit être quelque chose qui nous préoccupe, parce que soit le prix du pétrole se maintient et la situation continue telle qu'elle, soit il s'effondre et à ce moment-là, il y a un risque social majeur pour 150 millions d'habitants à nos portes, et donc c'est aussi un risque majeur pour nous. On est dans un monde compliqué. Oui. Si en plus vous rajoutez à ça qu'à long terme, il doit y avoir une transition énergétique et qu'en gros, on ne doit plus acheter de pétrole, et que ces fameux projets d'aller, par exemple, chercher le pétrole en Antarctique doivent être des projets qui ne doivent pas être mis en œuvre, parce que précisément, la contrainte climatique arrive. On se demande quel est l'avenir de la Russie. Et là, moi, je ne suis pas du tout sûr sur la clairvoyance de Vladimir Poutine, parce que je ne vois vraiment pas aujourd'hui dans sa stratégie, dans sa position géostratégique, en quoi il exprime la conscience de ces problèmes-là.
Je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Les sanctions, c'est important, mais ça a ses limites, parce que c'est « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Ouais. Par rapport à ça, le pétrole, c'est beaucoup plus durable et ça va forcer Poutine à être clairvoyant s'il ne l'est pas. Je pense qu'il l'est. C'est-à-dire, ça va le forcer à diversifier son économie. Et de ce point de vue-là, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus contraignant. Juste, je voudrais répondre à une question que vous n'avez pas posée, qui est, quelle peut être l'attitude de l'Europe en général et de la France en particulier ? On a quand même quelques bateaux à vendre à la Russie, et le sujet et l'actualité. Quelle est l'attitude ? Et de ce point de vue-là, je voudrais citer Dominique Moisy, qui est conseiller de l'IFRI, qui dit l'Europe a le choix entre les valeurs de la géographie et la géographie des valeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le choix entre les valeurs de la géographie, on est près de la Russie, il faut donc ne pas pousser trop loin le bouchon, et il faut avoir un réalisme énergétique, négocier avec eux, ou alors, deuxième solution, il faut avoir une géographie des valeurs, et considérer que les valeurs de l'économie politique russe aujourd'hui sont des valeurs quasi dictatoriales, et qu'il faut être plutôt dans une stratégie d'affrontement. Ouais. Dans ce domaine-là, la position de l'Europe et de la France est quand même difficile, je pense qu'il faut être très ferme avec Poutine, mais il faut surtout éviter une chose, c'est de l'humilier et d'humilier à travers lui le peuple russe. Il faut savoir que le peuple russe est très proche de Poutine aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au départ. Et de ce point de vue-là, la diplomatie européenne et française, c'est un tout petit peu compliqué.
Oui, emblématique d'ailleurs, l'abandon du projet très, très structurant, pourtant, du fameux gazoduc qui devait
est-il abandonné,
venir vers l'Europe.
On parle d'un nouveau tracé.
Il avait été lancé en 2007. D'ailleurs, je me semble que l'Italie était très partie prenante, c'était du temps de Berlusconi à l'époque. En tout cas, ce projet est soutenu. Autre chose que je voulais dire, on n'en a pas encore parlé, la monnaie, le rouble. Ouais. Tout ça, c'est l'effet de ce qui s'est passé. Et pour le coup, c'est un sondage très récent, 50% des Russes disent aujourd'hui que la chute du rouble commence à affecter sérieusement leur vie quotidienne, peut-être encore plus. Peut-être encore plus que les sanctions c'est un autre danger.
Il y a eu une chute du rouble de 60% par rapport au dollar. 60% par rapport au dollar depuis le début de l'année.
Oui. Et cette chute a trois effets quand même énormes. Premièrement, ça affecte les importations et donc le coût de la vie. Et deuxième effet qui est lié, l'inflation s'accélère, ce qui oblige la Banque centrale à monter les taux d'intérêt, ce qui a un effet négatif sur l'activité. Et troisième effet, par exemple, on parlait de la dette. Il faut savoir que la dette publique russe est très faible, mais la dette privée est considérable. 500 milliards de dollars qui doivent être payés à brève échéance pour certaines parties. Et si le dollar monte, comme cette dette est libellée en dollars, eh bien ça fait une charge supplémentaire. Donc ça va contribuer à asphyxier le pays encore plus. Donc cette baisse du rouble qui suit exactement d'ailleurs la baisse des prix du pétrole est quelque chose qui est vraiment
problématique. Oui, je n'ai pas les chiffres ce matin, mais il dégringole le rouble. Xavier Tavoge, effectivement, mais Benjamin Coriaton,
ça fait un bon moment que j'attends.
Non, mais je laisse tout de suite la parole à Benjamin. C'est juste pour là-dessus faire une petite incidente.
On a encore du temps.
On néglige souvent en Europe la popularité de Vladimir Poutine en Russie et le sentiment paranoïaque qu'ont les Russes d'être victimes du reste du monde. La chute du rouble, d'une certaine façon, alimente ce sentiment-là. Parce que pour les Russes, c'est orchestré par le reste du monde pour les appauvrir. Et c'est effectivement le résultat auquel ça conduit. Ouais. Et ça renforce la popularité de Vladimir Poutine. Et c'est pas impossible d'ailleurs que Vladimir Poutine joue là-dessus aussi pour asseoir sa popularité.
Benjamin Coria.
Je voulais revenir sur des débats internes à la Russie, parce que j'ai un peu regardé, comme tout le monde, j'imagine, des choses sur ce que eux-mêmes disent, et en particulier donc sur ce lien entre chute du rouble, perspective, etc. Alors il faut commencer par dire que les sanctions financières, on va y revenir juste une seconde, font spécialement mal à la Russie, non pas tant du point de vue de leurs effets macroéconomiques, là je suis assez d'accord avec ce qui a pu être dit, mais parce que après 2008, donc Lehman Brothers, il y a eu en Russie l'illusion que la place financière de Moscou pouvait apparaître comme un havre protégé. Mmh. Et donc, il y a eu des stratèges, si on peut dire. Mais oui, c'est très important, c'est très important. Donc, il y a eu des stratèges qui ont imaginé que, à travers la mobilisation de la finance, d'une partie de la finance internationale, utilisant Moscou comme place privilégiée, on aurait le fondement d'une relance de l'activité économique interne. Bon, alors c'est pas du tout ce qui s'est passé, d'une part, et d'autre part, le fait de frapper précisément sur des dimensions financières a coupé définitivement ce rêve et cette vision-là des stratèges. C'est très important, parce que du coup, l'autre alternative, c'est celle que suggérait Olivier Pastret, et qui est l'objet d'un rapport qui est sur la table de Poutine, qui est la diversification, qui est utiliser la rente pétrolière pour assurer non seulement la diversification, mais aussi, un peu comme en Chine, de la demande interne, et qui est l'option alternative à l'option Russie, place financière internationale. Alors, vont-ils s'engager là-dedans ? Ils s'engageraient dans le plus mauvais moment, c'est-à-dire au moment où la rente financière est en train de se dissiper. La rente pétrolière est en train de se dissiper. Troisième point, on est quand même dans un moment très particulier parce que on peut considérer que la chute du pétrole va vite atteindre un plafond. Et ce, pour une raison très simple.
Un plancher.
Ce, pour une raison très simple, qui est que cette chute du pétrole, elle est liée à une guerre de l'Arabie Saoudite contre les schistes aux États-Unis, et que tout ce qu'on sait, c'est que les banques sont très engagées dans le financement de l'énergie extraite des schistes, et qu'en dessous de 60-65 dollars, elle mange la grenouille. Donc on peut être à peu près assuré sur le fait que ça ne descendra pas beaucoup plus bas que 65 dollars. Et ce plancher atteint, on assistera probablement à une remontée des cours. Mais en tout cas...
Quand on touche le fond, on remonte en général.
Voilà.
Un coup de pied.
Et en tout cas, je voulais juste revenir sur le fait que cette question, cette question de attaquer sur la finance, elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. Non, oui. Et elle n'a pas que des effets négatifs, probablement, si on considère l'avenir de la Russie.
Attendez, ceux qui rêvaient de Russie, place financière internationale stable, ils avaient fumé la moquette.
Oui, je pense aussi.
Parce que, franchement, il suffisait de se rappeler la crise de 98, avant celle de 2008, pour savoir que dans ce domaine-là, la fidélité des capitaux était quand même... vous avez raison, et les emprunts russes avant. Sur la diversification, la question n'est pas tellement de savoir...
L'histoire n'apprend pas toujours...
Si le prix du baril va continuer à baisser, probablement il peut encore baisser, probablement, vous avez raison, il y a un plancher. Mais si on reste dans les eaux de 80-90, les Russes vont être obligés de se réformer. Et c'est ça l'enjeu essentiel pour l'économie mondiale. Et ils ont un avantage, parce que l'économie russe, c'est à mes yeux encore une économie de taille moyenne, mais en termes d'inflation, c'est pas cataclysmique. En termes de chômage, même si les statistiques sont fausses, c'est plutôt pas mieux que ce qu'on a nous. Et puis surtout, ils ont une capacité de capital humain qui est très forte. Et donc, ils ont les moyens humains...
Avec quand même une situation démographique qui n'est pas...
Vieillissement démographique, bien sûr.
C'est pas nous qui allons leur donner des leçons dans ce domaine-là.
Et même en termes de santé, en fait,
c'est
pas excellent.
En termes de niveau de qualification, si on compare la Russie et la Chine, aujourd'hui encore, la Russie a un niveau de qualification de la main-d'œuvre qui est très élevé, qui permettrait la diversification. Donc, voilà.
En effet, les dernières interventions là-dessus, Dominique Plion, ce qu'il faudrait...
Non, en tout cas, on n'a absolument pas intérêt, on l'a tous dit, est-ce que la Russie s'affaiblit ? Certains peuvent voir, peuvent se réjouir, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, d'avoir l'affaiblissement économique de la Russie, mais c'est un très mauvais calcul. On a un affaiblissement de Russie et de Poutine, ça a été dit, pourrait conduire à des changements économiques et politiques qui pourraient tout
L'Ukraine
à fait...
L'Ukraine qui n'est pas un modèle de démocratie, rappelons-le. Oui.
L'effondrement de l'économie de rente et la transition de la Russie vers une économie moderne, non corrompue, démocratique...
Ah bah, tout le monde le souhaite.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Soutenir et maintenir l'économie de rente et toutes ses conséquences assez terribles, ça c'est à mon avis, quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter.
Quand Vladimir Poutine dit qu'il connaît même le nom des spéculateurs, justement, qui ont provoqué toute cette
catastrophe monétaire, il semble qu'il y ait un logiciel à la banque de... Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai lu, moi, mais c'est à vérifier. Il y aurait un logiciel à la banque centrale russe. Et connecté, évidemment, à la bourse, qui permettrait de suivre d'assez près...
C'est vrai, un système d'experts mais pour identifier les opérations.
Est-ce que ça permet d'identifier...
S'il ne cite pas sa liste, c'est parce qu'il y a probablement un certain nombre d'oligarques russes qui ont anticipé le mouvement.
Et pas forcément pas très éloigné de ses propres cercles.
Vous avez envie de dire un mot sur le voyage du président Hollande qui est arrivé au Kazakhstan, qui montre quand même qu'il s'intéresse même de près à cette région. C'est la troisième fois qu'un président français va dans cette ex-république soviétique, dont on rappelle quand même qu'elle est aux mains d'un oligarque puissant moyennement démocratique, merci Olivier, et qu'elle est très riche en hydrocarbures. Hein. François Mitterrand s'y était rendu, Nicolas Sarkozy aussi.
Et en uranium, premier producteur mondial. Explique peut-être le charme que le Kazakhstan a
au moment où Areva a quelques difficultés.
Voyage en compagnie d'une bonne cinquantaine de chefs d'entreprise français qui faisaient partie de cette délégation. Merci à tous les quatre. Avez-vous quelques actualités invisibles? Cette fois, nous avons un peu plus de temps, me semble-t-il, que d'habitude. En avez-vous préparé? Oui, Xavier Timbo.
Oui, Dominique, j'ai même une suggestion à vous faire pour le programme d'une prochaine émission. Il y a un papier, un document de travail qui fait le buzz en ce moment et qui s'appelle « The Superiority of Economists », la supériorité des économistes, qui a été écrit par deux sociologues et un économiste français, Marion Fourcade, Étienne Ollion et Yann Algan, qui est très discuté un peu partout. Il rajoute une analyse assez intéressante sur un débat qu'on a déjà eu dans Inside Jobs, dans... l'épisode Laurent Mauduit et le débat qu'il avait lancé sur la place des économistes et comment les économistes fonctionnent. Et ben, ils apportent un certain nombre d'éléments où ils montrent, il y a une arrogance des économistes, il y a une structure d'organisation des économistes extrêmement hiérarchisée et assez rigide. Les économistes sont aussi extrêmement sexistes. Ils sont aussi mieux payés que tous leurs collègues dans les sciences humaines. Voilà, la question est de savoir après, est-ce que ça c'est lié simplement à un effet d'arrogance ou est-ce que s'il y a derrière un peu plus que cela? Alors dans le papier, en fait, ils disent qu'il y a un peu plus que ça, c'est que les économistes sont convaincus, à tort ou à raison, de pouvoir agir sur le monde et de là ils tirent un sentiment de supériorité, mais aussi une attraction et des liens avec des milieux d'affaires dans lesquels il y a de l'argent qui leur revient aussi. Donc, il y a un certain nombre d'éléments intéressants dans ce papier. Ce débat avait été, vous rappelez, extrêmement houleux il y a quelques temps. Je pense qu'il serait intéressant d'inviter un des trois auteurs, ou les trois auteurs qui sont français, donc qui sont accessibles à France Culture le samedi, et d'avoir un débat autour de ça. Ça pourrait être très intéressant.
Et vous ne croyez pas si bien tombé, parce que j'avais prévu de faire autour des économistes et de leur rôle, à la fois dans les médias, dans la société française, leur influence, la toute dernière émission de cette année. Donc rendez-vous est pris. Merci Xavier Timbo. Et vous avez bien dit que les économistes hommes étaient un peu plus en cause que les économistes femmes.
Ah, c'est pas tellement qu'ils sont plus en cause, c'est qu'il n'y a que des économistes hommes. Et qu'il y a une différence très nette
entre les
économistes. Il y a une différence très nette entre les économistes et les sociologues ou les historiens, où il y a beaucoup plus de parité que dans le milieu des économistes. Ce qui veut quand même probablement dire quelque chose sur les modes de recrutement, les modes de sélection et la façon dont la discipline fonctionne.
Nous sommes bien d'accord. Rendez-vous est pris pour la toute dernière émission de cette année, je m'y engage. Rapidement alors, on va prendre un petit peu de place pour
vite,
d'autres actus.
C'était le 1er décembre, la journée mondiale sur le sida. Je m'efforce d'essayer de trouver une bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que toute une série de tests sont arrivés maintenant pratiquement à confirmation qu'il existe désormais une pilule du lendemain, si j'ose dire. Donc de ce point de vue, la recherche a bien travaillé. Il ne faut surtout pas que ça incite les gens à ne pas se protéger. Il faut continuer parce que ça reste la protection essentielle. Mais en tout cas, maintenant, on a un médicament qui est une pilule du lendemain qui est très efficace.
Et qui n'est pas trop cher.
Ça, c'est encore une autre question, mais je ne voulais fâcher personne.
Merci Benjamin Coriat. Olivier, très vite, 10-15 secondes.
Après la Russie, juste un mot sur la Chine. Un groupe chinois est en train de racheter l'aéroport de Toulouse, que tout le monde sait, qui est dans l'actualité. Ce qui est moins connu, c'est l'envol des capitaux chinois vers les entreprises audiovisuelles, en particulier aux États-Unis. Il y a le groupe Venda qui vient de racheter le deuxième réseau de salles de cinéma aux États-Unis. Le groupe Alibaba qui fait du commerce en ligne est aussi en train d'investir. Donc les Chinois viennent sur le terrain des grands majors américains, c'est intéressant. Et en même temps, la Chine a augmenté sa censure et a obligé les producteurs de cinéma à aller au champ, on se croirait du temps de Mao, pour retrouver le lien avec le peuple. Je trouve que c'est un pays merveilleux, ce pays.
Merci beaucoup. Trois actualités invisibles. On se quitte là-dessus en remerciant Ghislaine David pour la réalisation, avec Stéphane Poitevin et Laurence Jeannepin pour la préparation et la documentation. Deux petites infos à vous donner. Les rendez-vous annuels de la réflexion politique, où il sera aussi question d'impôts et de dépenses publiques. C'est à Royaumont, les entretiens de Royaumont. C'est ce week-end. Et puis également, c'est à Paris, cette fois, on le sait, la rencontre, le premier sommet de l'économie, Osons la France. Pour ceux qui se trouvent à Paris, vous pourrez y aller. Enfin, un travail de l'OFCE, j'ai pas le temps de le détailler, mais reportez-vous-y, il sera en ligne parmi d'autres titres à vous conseiller. La semaine, la troisième revue indépendante annuelle de croissance